Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, réforme de l'école tout d'abord, la première entrée de la loi pour une école de la confiance et ses préconisations. Nous en abordons quelques-unes en compagnie de Christophe Chevalet, adjoint à la vie scolaire de Glézé. Puis, la loi pénitentiaire de 2014 s'était donnée comme objectif de favoriser des peines alternatives. C'est dans ce cadre que l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison, antenne de Villefranche, intervient auprès du CCAS de Villefranche afin d'être missionné dans un suivi en milieu ouvert auprès de ces personnes. Avec nous, Claude Durafour, président de l'antenne de Villefranche. Et en conclusion, les TMS, les troubles musculaires squelettiques, sont le cheval de bataille de la MSA 1 Rhône. Dû à la progression de cette pathologie chez les viticulteurs liée à la taille. Comme nous l'explique Jacques Vermorel, conseiller en prévention des risques professionnels MSA 1 Rhône. Calade, le journal. Amazonie, la Guyane française, le bas qui blesse. La forêt amazonienne est aussi victime du déboisement en Guyane française. Et caillou dans le soulier, la France et grande consommatrice de soja brésilien. On ne peut pas soutenir un modèle qui favorise la déforestation de l'Amazonie et se prétendre le gardien de l'Amazonie. Dixit l'écolo Yannick Jadot sur France Info et renchérit sur France 2. La France favorise le développement d'un élevage où les animaux sont nourris au soja brésilien. Yavoul, répond notre président, on a une part de complicité. Le plateau des Guyanes, qui comporte notamment la Guyane française, la Guyana et le Suriname, a des taux de déforestation extrêmement faibles et a maintenu un couvert forestier quasi intact par rapport à d'autres parties de l'Amazonie, aux zones andines ou brésiliennes, fait observer Laurent Kell, responsable du WWF en Guyane. Sommes-nous pour autant rassurés ? L'orpaillage, légal comme clandestin, entraîne la perte de 800 à 1000 hectares par an, à part égale d'après Laurent Kell, et la construction d'infrastructures routières, mais aussi urbaines, cause le déboisement de quelques 400 hectares chaque année. Cela peut paraître beaucoup vu de métropole, mais c'est très peu à l'échelle amazonienne, relativise Lilian Blanc, chercheur en écologie forestière au Centre de coopération internationale en recherche agronomique CIRAD. La forêt guyanaise est certainement la forêt tropicale la mieux gérée du monde, assure Lilian Blanc, et sa gestion est planifiée et encadrée par l'ONF. Et les forestiers ne passent sur une parcelle que tous les 65 ans. Les arbres ont le temps de se régénérer et la biodiversité est préservée, expose l'écologue du CIRAD. En 2015, lorsqu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron a soutenu le gigantesque et controversé projet minier Montagne d'Or, un soutien qu'il a confirmé en 2017 après son arrivée à l'Élysée. L'exécutif a finalement annoncé son abandon en mai, mais le président de la compagnie minière ne s'avoue pas vaincu, arguant que le projet n'est pas finalisé. Mais la France n'est pas seulement directement responsable des dommages qu'elle peut faire subir à la forêt amazonienne. En Guyane, elle est aussi indirectement comptable de la déforestation en Amazonie brésilienne. Selon un rapport publié en juin par Greenpeace, la France, faisant du Brésil le premier fournisseur de soja de l'Hexagone, ce soja était principalement destiné à l'alimentation animal. L'association Envolver a calculé l'empreinte forêt des Français. Cela représente 2,4 millions d'hectares d'arbres arrachés pour l'ensemble de la population française, soit presque la superficie de la Bretagne. Des forêts qui disparaissent à cause de nos modes de vie ? Jamais de la vie. Réforme de l'école. La première entrée de la loi pour une école de la confiance et ses préconisations. Nous en abordons quelques-unes tout de suite en compagnie de l'adjoint à la vie scolaire de Glézé, Christophe Chevalet, en cette toute nouvelle rentrée.
Parlons maintenant effectivement de cette obligation aujourd'hui d'avoir des enfants à partir de 3 ans, enfin d'être inscrits en tous les cas à partir de 3 ans. Est-ce que ça change quelque chose véritablement sur le terrain ?
Alors pour nous, commune de Glézé, on ne voit pas de changement puisque on scolarisait les enfants à partir de 3 ans. Donc pour nous, ce n'est pas une révolution, c'est un choix des parents, mais on permettait l'inscription à partir de 3 ans.
Dans également les préconisations, évidemment, il y a aussi la responsabilité des violences, etc. Enfin voilà, tout un code. Est-ce que ça touche plus particulièrement les écoles primaires ou c'est peut-être plus déjà sur des écoles collèges comme type harcèlement? On entend beaucoup parler de ces questions-là, en tous les cas.
Alors, ces questions-là, justement, concernent aussi beaucoup les écoles élémentaires, puisqu'on voit la création du harcèlement, de la violence, dès les plus petites classes, malheureusement. Donc, on a une écoute particulière via nos encadrants périscolaires et un dialogue constant avec les équipes enseignantes. Puisque nous, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui se développe malheureusement comme dans toutes les écoles. Donc on a un dialogue permanent avec les enseignants et les personnels périscolaires pour désamorcer toute crise et éventuellement se faire aider par la psychologue scolaire ou éventuellement un contact avec les parents pour proposer d'autres solutions via la Maison du Rhône.
Pour terminer, si vous le voulez bien, entre le bio et effectivement les plats bannis du plastique, la question de l'environnement, cette année tout particulièrement, l'État, mais en tous les cas l'éducation nationale met, et le gouvernement met un accent, voilà, tout à fait, sur plus particulièrement l'environnement qui concerne dès le plus jeune âge.
Tout à fait. Nous, je dirais que ces orientations gouvernementales, on n'a pas attendu. On fait déjà depuis de nombreuses années une sensibilisation à l'écologie pour nos jeunes enfants via le conseil municipal d'enfants. Donc tous les ans, nous proposons une initiative qui est la matinée Nettoyons la nature. Donc pour information, ça se passe dans les différents quartiers glissés. On fait tourner sur la commune tous les ans. Et les enfants de nos écoles, pour ceux qui le souhaitent, participent à un nettoyage complet de quartier qui dure une matinée. Et généralement, on ramasse pas loin, malheureusement, de 50 kilos de déchets divers, variés, verres, canettes, etc. Et justement, à ce sujet, ils ont une information sur les durées de vie de produits. Sachant qu'un chewing-gum, c'est plus de 20 ans pour l'être éliminé. Donc, ils ont une sensibilisation depuis le plus jeune âge et on les invite régulièrement. Et je sais qu'aussi une école Joseph Violet, cette année, a mis en place un nettoyage de tour d'école avec les enfants de l'école.
C'était Christophe Chevalet, adjoint à la vie scolaire de Glazy. Le point sur cette nouvelle rentrée. La loi pénitentiaire de 2014 s'est donnée pour objectif, entre autres, de favoriser des peines alternatives, dites aussi de substitution ou de remplacement, envisageables pour les auteurs de délits et non de crimes. C'est dans un cadre d'accompagnement des prévenus hors prison que l'AMVP, l'Association nationale des visiteurs de prison, intervient auprès du CCAS de Villefranche afin d'être missionné dans un suivi en milieu ouvert auprès de ces personnes. Les détails avec Claude Durafour, il est président de l'ANVP. VP, section de Villefranche. On l'écoute tout de suite.
La loi pénitentiaire de 2014 veut favoriser les peines alternatives, c'est-à-dire les peines hors de la prison. C'est-à-dire qu'un magistrat peut très bien, suite à un jugement, prononcer une peine alternative et demander à une personne prévenue d'effectuer sa peine, non pas en prison, mais dans une structure à l'extérieur, dans la société civile, avec ou sans bracelet électronique, selon les cas.
Alors, dans un souci de désenclaver un petit peu les prisons qui sont bien pleines, mais pas forcément que pour ça.
Pas forcément que. L'expérience prouve que les personnes qui ont effectué leur peine en milieu ouvert, dans une structure adaptée, se réinsèrent beaucoup mieux dans la société, une fois leur peine terminée, qu'une personne qui est passée par la case-prison. Puisque, comme on le sait, la case-prison déstructure socialement les personnes. À Villefranche-sur-Saône, nous, visiteurs, on intervient régulièrement à la maison d'arrêt pour suivre des détenus tout au long de leur détention. Actuellement, on doit visiter une vingtaine de détenus au sein de la maison d'arrêt. Et maintenant, on veut, nous, visiteurs, profiter d'un accord que nous avons signé, que l'ANVP a signé avec l'administration pénitentiaire, pour pouvoir écouter et accompagner les personnes qui sont en milieu ouvert, c'est-à-dire qui effectuent leur peine au sein de la société civile. on peut accompagner ces personnes au sein de leur, je dirais, de leur mission, de leur...
Détention à ciel ouvert.
Oui, voilà, de leur détention à ciel ouvert, on peut dire comme ça, sur Villefranche. Et ce sont des personnes qui sont toujours ce qu'on appelle sous main de justice, c'est-à-dire qu'elles sont sous la responsabilité du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
C'était Claude Durafour, président de l'ANVP, l'Association des visiteurs de prison, section de Villefranche, qui intervient plus particulièrement à la maison d'arrêt de Villefranche. Et pour conclure cette édition, prévention. Les TMS, les troubles musculaires squelettiques, sont le cheval de bataille de la MSA Ain-Rhône, dû à la progression de cette pathologie chez les viticulteurs liée à la taille. La création de modules de formation sont envisagés, comme nous l'explique Jacques Vermorel, il est conseiller en prévention des risques professionnels MSA Ain-Rhône. On l'écoute tout de suite.
Il y a une grosse progression en ce moment, ce qu'on regroupe sous le vocable de TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Alors, sous ce vocable un peu barbare, on entend par là, en fait, les tendinites, en gros. Donc les épicondylites, les syndromes du canal carpien et tout ce type de pathologies qui sont notamment liées à la taille de la vigne. C'est pourquoi, sur un module qu'on a créé avec deux collègues du Vaucluse et de la région Bourgogne, de Saône-et-Loire, qui a pour sujet l'affilage des lames de sécateurs. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que peu de viticulteurs savent affiler une lame correctement. Ils confondent en général aiguisage, affilage, donc c'est déjà des termes qu'il faut définir au départ. Et ensuite, il y a un savoir-faire qui s'est perdu suite à l'apparition de sécateurs assistés, notamment les sécateurs électriques. Donc dès l'instant où c'est assisté, on pense que bon, il n'y a plus d'intérêt à entretenir le fil de la lame du sécateur, ce qui est complètement faux puisque on constate une progression énorme sur nos statistiques. Alors jusqu'à présent, on avait surtout des pathologies qui étaient liées au syndrome du canal carpien, donc sur le poignet, qui sont relativement faciles à traiter. Le syndrome, la pathologie qui est liée à l'épaule, qui est quand même une articulation beaucoup plus complexe. Au niveau de la coiffe des rotateurs, c'est 210 jours d'arrêt. 210 jours, ça fait quand même un sacré bout de temps. Hein. C'est toute une période de taille qui est foutue. Voilà, donc on a insisté là-dessus. On est parti de ces constatations. Sachant qu'en plus, avec la coiffe des rotateurs, vous pouvez éventuellement perdre en mobilité de l'épaule. Hein. C'est-à-dire que c'est invalidant. Ça peut être invalidant, c'est pas automatiquement invalidant, mais on récupère pas automatiquement complètement le mouvement de l'épaule. Donc c'est vraiment prendre en compte sérieusement. Donc on est parti de ces constatations et on a créé un atelier pratico-pratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils intègrent en eux-mêmes, en leur corps, déjà arriver à déterminer ce qu'est le fil, dans quel état est le fil, et après savoir comment le récupérer ou pas. Et on les fait travailler sur des sécateurs où les lames ont été déformées volontairement pour qu'ils arrivent à intégrer en eux-mêmes voilà, ces différents états du fil et la façon dont on peut le traiter. Et ils viennent avec leur propre sécateur. Après, on s'attaque à leur propre sécateur et ils arrivent à poser un diagnostic et à la suite de ça, faire ce qu'il faut pour rectifier la situation.
Alors ça, c'est une mise en place nouveau, ces ateliers ?
C'est nouveau. Oui, oui.
Donc il y a des inscriptions, j'imagine, au courant de l'année. Comment ça fonctionne ?
Parce que c'est des formations qui durent sur une demi-journée pendant la période hivernale, pendant la période de taille. Et donc, je n'ai pas encore calé les dates. Je veux déjà sensibiliser les viticulteurs à ce type de formation. Alors, ça a été mis en place l'année dernière, donc on a fait des formations test l'année dernière, ce qui nous a permis d'augmenter la formation, de rectifier, enfin de caler la formation correctement. Et puis aussi des témoignages, alors à la fois témoignages à chaud après la formation, à l'issue de la formation, et également à froid plus tard dans la saison, pour voir comment ils ont mis en pratique, justement. Et donc, je termine ma présentation par une vidéo qui est un cumul, enfin une agglomération de plusieurs témoignages de participants de l'année dernière.
Et pour les inscriptions, msa.fr. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.